Bien-aimés en Christ, par cet enseignement, le Seigneur nous permet, sur demande de beaucoup de frères et sœurs, comment bien discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Nous allons sous la conduite de l'Esprit de la parole, car le Seigneur dit dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Nous allons par cet enseignement donc partager cette parole. Comment discerner que l'Église, temple, est véritablement dirigée par l'Esprit de Dieu? Et si réellement le Seigneur siège dans ce temple? Par cet enseignement, comme les autres, frères et sœurs en Christ, vous avez la possibilité de noter dans l'ordre les passages donnés et ensuite de prendre un moment pour les méditer, selon l'ordre défini. Vous découvrirez comme nous la vérité. Et nous sommes sûrs que cette parole que le Seigneur Jésus-Christ disait, « Ceux qui ont des yeux pour voir, voient, et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. » Eh bien, s'accomplira en vous, comme nous-mêmes avons été éclairés. Le discernement. Comment discerner l'Église ou assemblée corps du Christ et l'Église ou assemblée corps des idoles? Nous allons voir qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Premièrement, quelles sont les raisons de la venue du Christ sur la terre? Eh bien, il existe trois raisons. On distingue d'abord parmi ces raisons deux premières raisons. Ces deux premières raisons servaient, en un, la connaissance de Dieu, la nature et la personnalité de Dieu. En deux, ce que Dieu attend de ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Pour l'accomplissement de ces deux raisons, le Christ qui est la parole de Dieu est esprit. Étant esprit, il lui sera impossible de se faire voir car il n'a pas de corps. Dieu est esprit. Il n'a pas de corps comme l'humain. Pour que le Christ nous fasse connaître Dieu, il est impératif qu'il soit revêtu d'un corps humain. Par ce corps, le Christ pourra alors nous faire connaître visiblement la nature et la personnalité sainte de Dieu. Hébreux 10, verset 5. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voici ce corps. Luc 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà pour le verset 31. Voyons les versets 34 et 35 du même chapitre. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ce corps doit être un corps saint, c'est-à-dire un corps qui n'est pas conçu par un homme pécheur, descendant d'Adam. Car vous savez que tous les hommes sont descendants d'Adam le pécheur, et ils sont engendrés à son image et sa ressemblance. Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Oui, tous les hommes sur la terre sont les descendants d'Adam par Seth. Par contre, Jésus l'homme ne descend pas de Seth. Son Père, c'est Dieu par son Esprit Saint. Donc Jésus est saint par son Père. Le Christ, la parole de Dieu, devait se revêtir de ce corps saint. Car le Christ, la parole de Dieu, est sainte. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, cette volonté de Dieu que le Christ devait accomplir, ce sont les trois raisons de la venue du Christ sur la terre. Hébreux 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Quelle est donc cette volonté de Dieu, ces raisons que le Christ devait accomplir sur la terre? On a bien entendu au commencement de cet enseignement les deux premières raisons. Nous faire connaître Dieu son Père. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans les versets 6 à 8, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Dans le même chapitre, prenons les versets 25 et 26. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà la première raison. La volonté de Dieu, c'est que les hommes le connaissent et qu'ils connaissent sa nature et sa personnalité sainte. Pendant son séjour sur la terre, Jésus-Christ a manifesté la vie de son Père visiblement. Il a manifesté l'amour, la vérité, la justice et la paix autour de lui. 1 Jean 1, versets 1 à 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La deuxième raison de la venue du Christ, en prenant le corps humain, était de montrer à l'homme ce que Dieu attend de l'homme croyant chrétien. Le chemin que doit emprunter l'enfant de Dieu. Le chemin qui doit l'amener à l'obtention de son héritage, qui est la vie éternelle. Et surtout que l'homme l'imite. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Car imiter Jésus-Christ, c'est imiter Dieu. Imiter Dieu, c'est mettre en pratique ce que dit le Christ Jésus, son Fils. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Voici comment imiter Jésus-Christ. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Jean 14, versets 8 à 11. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Cette deuxième raison de la venue du Christ trace le chemin à parcourir pour atteindre la vie de Dieu. C'est pour cela Jésus-Christ nous a donné la feuille de route de cette deuxième raison de sa venue. Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière n'est pas une prière verbale, mais une feuille de route qui nous permet, en tant qu'enfants de Dieu adoptifs par Jésus-Christ, de bien tenir la route. Voici la recommandation de Jésus-Christ à propos de cette deuxième raison de sa venue. Prenons Jean 13, versets 15 et 17. car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Maintenant, qui peut dire qu'il n'a pas entendu et qu'il n'a pas vu ? Reprenons 1 Jean 1, versets 1 à 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Les témoins oculaires, ceux qui ont touché et entendu cette réalité, cette vérité, n'ont pas caché ce qu'ils ont vu et entendu. Prenons Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ces hommes témoins qui ont assisté et vu la troisième raison, une raison extraordinaire, au-dessus de tout entendement humain, l'offrande et le sacrifice de ce corps de Christ. Jésus l'homme, Jésus-Christ se donne lui-même comme offrande pour le rachat de ses frères, les hommes. Jean 18, versets 4 à 11. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Simon Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Voilà, Jésus s'offre lui-même par l'amour de l'homme. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il accomplit ainsi la volonté de son Père. Cette volonté de libérer l'homme en payant de son corps et sang ce qu'on offre selon la loi de Moïse. Hébreux 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. L'offrande de sang des taureaux et des béliers selon la loi de Moïse, ce qui est remplacé aujourd'hui par l'argent, a été aboli et remplacé par l'offrande unique du Christ, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ Jésus, l'homme. La raison, c'est le rachat de la personne de son frère, homme. Car avant la venue du Christ et revêtu d'un corps humain, les Israélites se rachetaient par les offrandes et les dîmes pour avoir les bienfaits et les faveurs de Dieu. Exode 30, versets 11 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-sicle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-sicle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Lévitique 1, verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il faut savoir que cela a duré jusqu'à la venue du Christ sur la terre. Mais avant de procéder à ce rachat, le Christ Jésus a d'abord accompli les deux raisons de sa venue avant de terminer par la grande raison de sa mission. Il a fallu qu'il les prépare à la connaissance de son Père, en leur montrant la manière de marcher sur le chemin avant de terminer sa mission par le rachat. Par Jésus-Christ, l'alliance avec les enfants d'Israël doit changer. L'alliance devient humaine et non d'une communauté, car la première alliance était une alliance communautaire, c'est-à-dire avec la communauté juive. C'est pour cela que Moïse n'était pas médiateur entre Dieu et l'homme, mais entre Dieu et les enfants d'Israël. Aaron, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire représentant des enfants d'Israël, et non le souverain sacrificateur représentant de l'homme. Mais Jésus-Christ est médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Hébreux 7, verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. C'est pour cela cette alliance devait changer. Et une fois l'alliance changée, il y a aussi changement de la loi et ses ordonnances. Hébreux 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Galates 3, versets 23 à 27. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Après avoir suivi cet enseignement pas à pas, comment on peut encore retourner à ce que Dieu a supprimé pour établir une nouvelle chose ? Hébreux 10, verset 9. Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Si celui qui vous oblige, exige, impose encore ce qui a été rejeté, frères et sœurs, celui-ci ne peut être de Dieu. Jérémie 31, versets 31 et 32. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Hébreux 8, versets 7 à 9. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Et dans le verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Si vous entrez dans un endroit, dans une maison, une salle, et si vous trouvez un panier pour l'offrande, la dîme, et si vous entendez la prédication sur l'offrande et la dîme, frères et sœurs, maintenant vous savez qu'il faut vite sortir de cet endroit, de cette maison ou de cette salle. Car cet endroit, cette maison ou cette salle n'est pas pour Dieu par Jésus-Christ. Et l'homme qui prêche l'offrande et la dîme n'est pas serviteur de Jésus-Christ. C'est la maison des idoles. Et cet homme est un serviteur des idoles. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Balial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, cet enseignement touche à sa fin, et n'oubliez pas ce que le Seigneur Jésus dit. Ceux qui ont des yeux pour voir ces signes, voient, et ceux qui ont des oreilles pour entendre ces prêches, entendent. Maintenant que le frère et la sœur prennent la décision de faire le choix entre lui, le Seigneur Rédempteur, et les idoles. C'est cela le discernement pour discerner ce qui est de Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous éclaire.